Juste avant, voilà, je posais la question de savoir si ça avait été hier avec Génération Consacrée. Ouais, ouais. Bon. Vous voulez dire quelque chose à ce sujet? Pas spécialement? Oui, si, quand même, puisque tu te lèves.
Voilà, c'est ça. Non, juste pour témoigner, parce que on sait pas, quand on se lance comme ça dans une aventure, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais on apprend à faire confiance au Seigneur. Et on a prié, le Seigneur m'avait mis à cœur, pendant un temps de prière personnelle, d'appeler 12 enfants. Mais pourquoi 12? Alors on peut penser aux 12 tribus, aux 12 disciples. Ça, voilà. Et on a démarré hier la réunion, on avait 9 enfants. Et il y a 3 enfants qui sont arrivés un peu plus tard, en fait, de manière assez surprenante et inattendue, parce qu'ils ne sont pas de notre église et ils ont entendu parler de Génération Consacrée. Et donc, il y avait bien 12 enfants. Et pour nous, c'était au-delà du fait que ce soit. Bah, ça démarre, donc il y a plein de petites choses à ajuster, mais on sent que le Seigneur est là pour cette génération. Bon, les enfants qui sont là, je vois Roman là qui est là, je les ai vus aussi les autres ce matin, ils n'ont pas l'air trop traumatisés, donc ça va à peu près. Non, on a passé un très bon moment dans la présence de Dieu, ils ont eu des temps de louange, ils ont, avec un super groupe, on était, donc ça c'était top, il y avait vraiment bien de belles choses, et puis on a eu bien sûr un temps de partage sur qui nous sommes aux yeux de Dieu et la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, que Dieu est notre Père, que Dieu nous a créés par amour, que Dieu nous a créés à son image. Et on a eu aussi un temps de face à face où ils ont pu passer un petit moment, chacun individuellement, face à face avec Dieu et répondre à une lettre d'amour du Père pour eux. Voilà, une lettre d'amour du Père qui était écrite à partir de versets de la Bible. Voilà, donc on a passé un très bon moment avec eux. On s'est bien amusé, je pense, et on est allé aussi en profondeur. Continuez à prier pour ça aussi, parce qu'il y a de l'enjeu autour de cette jeune génération. Mais on croit que Dieu est en train de poser des fondements assez extraordinaires pour ce qu'il a envie de faire avec eux. Et on est très heureux de ce qu'il a fait et de ce qu'il va continuer à faire. Voilà.
Super. Ce matin, je voudrais avoir un partage avec vous, un partage biblique qui, comment dire, vendredi, non pas vendredi qui vient de passer, mais l'autre avant, nous avions une rencontre Levons-nous et rebâtissons. Et dans cette rencontre, plusieurs fois, Boris a dit « il faut jeûner ». Alors, j'ai dit « bon, je vais me pencher un peu sur la question, mais finalement, je voulais surtout parler du jeûne de Jésus. Et puis, quand c'est comme ça, on essaye de se laisser conduire. Donc, finalement, il faut que je le fasse en deux fois. Alors, à faire aujourd'hui, et puis, je crois que la prochaine fois que je prêche, c'est dans 3 semaines ou 4. Donc je reprendrai, mais juste avant de commencer, je voulais juste savoir si je pouvais tout dire. Oui, mais donc on va mettre finalement. Donc c'est en principe le terme, ça devrait être la tentation de Jésus. Mais on verra au fur et à mesure. Donc si tu peux mettre les versets. En fait, il faut que je me rachète un truc là parce que ça. Voilà, je vous propose une lecture dans l'évangile de Luc, le chapitre 23, le chapitre 3, pardon. C'est affiché, donc vous pouvez lire. Il arriva que, comme tout le peuple était baptisé, Jésus, aussi étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sur une forme corporelle comme une colombe. Et il y eut une voix qui venait du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. » Et juste à suivre, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. J'ai mis ces versets parce que cette traduction, parce que ça nous sort des traductions que l'on a l'habitude d'avoir. Ça nous oblige à dire, ah, mais c'est pas tout à fait comme ça que j'avais entendu ce verset, mais justement, je préfère des fois changer de traduction pour que ça nous impacte plus, ou en tout cas qu'on se dit pas juste, ah ben je connais déjà quoi. Je ne peux pas parler de ce qu'on appelle la tentation de Jésus dans le désert sans parler du baptême, parce que ça fait partie. Il n'y a pas de tentation de Jésus dans le désert sans son baptême et sans cette parole du Père à Jésus. Baptême, nous le savons que Jésus n'avait pas besoin. Et pourtant, voulant s'identifier aux hommes, il a discuté avec Jean le Baptiste qui ne voulait pas le baptiser. Jésus dit mais laisse faire, accepte pour le moment, dit une certaine traduction. Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. Et là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Jean le Baptiste n'avait pas envie de le baptiser. Non pas parce qu'il n'avait pas envie de le tremper dans l'eau, c'est parce que dans sa pensée, dans sa manière de voir, Jésus aurait dû, lui, baptiser les autres, mais pas se faire baptiser. C'est juste une parenthèse pour dire que nous avons des manières de voir et de concevoir qui, quelquefois, nous bloquent. On est tellement persuadé que c'est comme ça que ça doit se passer, et tout d'un coup, le Seigneur vient et puis nous dit, ben, moi je veux que tu penses autrement. Et ça, c'est déstabilisant. On n'aime pas, parce qu'on aime notre sécurité. On y tient et on s'y accroche. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en question et en cause, c'est pas ce que je dis. Je voudrais juste souligner que quand l'Esprit de Dieu nous dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de notre manière de voir et de concevoir, alors au lieu de dire non, on va juste dire ok, pourquoi, qu'est-ce que tu veux? Et j'allais dire dans ma vie de pasteur, je vous l'ai déjà dit, mais quand cette religieuse catholique est venue me demander le baptême, j'ai dit ah non, casse les pieds, c'est tu m'embêtes. Et le Seigneur de dire, mais qui es-tu toi pour contester ce que moi je lui demande de faire? Oh, alors si c'est toi qui dis, mais ça va quand même pas dans le sens. Et puis finalement, je vous disais la fois dernière, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, que des fois ça me cassait les pieds de voir que Dieu avait raison. Mais une fois de plus, j'étais bien obligé de reconnaître qu'il avait raison et que ça a ouvert la porte au baptême de pas mal de frères et sœurs catholiques qui voulaient faire ce pas de foi, d'obéissance auquel le Seigneur les appelait. Donc Jésus doit insister auprès de Jean pour que laisse faire. Pour le moment, c'est comme ça, laisse, accepte. Ce qu'il nous convient d'accomplir. Et je trouve ça assez sympa, parce que Jésus dit à Jean, mais toi et moi, là, à l'instant présent, nous devons accomplir quelque chose, nous devons l'accomplir ensemble. Je ne peux pas l'accomplir seul, j'ai besoin de toi pour accomplir ce geste qu'est le baptême. Et Jésus ne cède pas au discours de Jean, qui est en train d'élaborer, d'échafauder, de pas contester, mais de dire, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et Jésus est droit dans ses bottes, si tant est il en avait, je pense qu'il avait plutôt des sandales, mais Jésus dit, moi je ne bouge pas de ce que je pense être juste aux yeux de Dieu. Là où nous, parfois, nous nous laissons influencer par des choses qui semblent justes, semblent bibliques, etc., mais on se laisse influencer. Donc, parce qu'il y a un acte d'obéissance de la part de Jésus, il y a aussi l'Esprit Saint qui descend sur lui, sous une forme corporelle, virgule, comme une colombe. Je sais pas, c'est comme une. Je sais pas ce que c'était, parce que nous, on dit souvent que c'est une colombe. Mais là, c'est comme une colombe. C'est pas un pigeon non plus. C'est pas. Alors on représente, hein, colombe. C'est. Ok, mais quand on dit comme, ça veut dire que c'est peut-être pas tout à fait ça, quoi. Je voudrais juste dire que on est tellement imprégné de notre manière de voir que on dit, mais si, le Saint-Esprit, c'est une colombe qui fait grou, grou, grou. Mais voilà, c'est souvent, je pense, comment dire, aux prophètes de l'Ancien Testament, ils voient des trucs, ils essayent de dire, mais forcément, si c'est une fusée, etc., ils pouvaient pas dire c'est une fusée, c'est un truc, ça existait pas. Donc c'est comme ça, mais on n'arrive pas tout à fait à décrire. Enfin bon, c'est pas le sujet du truc, c'était. Je m'éloigne de. Je veux juste dire que. Je veux dire que si Jésus n'avait pas accepté d'obéir à ce qui était juste, il n'est pas impossible qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit ne descende pas. Parce que l'Esprit Saint aime bien quand on obéit. Et donc là, il se fait entendre une voix qui venait du ciel, c'est le Père, donc, qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. » Et on ne peut pas, enfin, je pense qu'on ne peut pas trop parler du temps que Jésus a passé dans le désert suite à cela, sans d'abord parler de cela. Parce que dans cette déclaration, le Père est en train de dire à Jésus, toi tu es mon fils, tu es mon fils, tu es ma fille, entendu, hein, c'est un remix de hier. C'est important parce que Jésus, je ne sais pas s'il en avait besoin, si la voix c'était pour lui ou pour les autres. Mais je pense que c'était pour lui aussi, parce qu'il l'avait besoin. Tu es mon fils, et nous avons besoin d'entendre de la part du Seigneur, le Seigneur nous dire, toi tu es mon fils, tu es ma fille. Ça fait partie de notre identité. Si nous si nous doutons de notre filiation spirituelle avec Dieu, alors on a du mal à continuer à vivre le reste. Jésus, ça aurait été certainement compliqué pour lui d'être 40 jours dans le désert sans boire et manger, en étant chaque fois tenté, éprouvé, sans avoir entendu cela. Et là s'inscrit comme un sceau qui vient du Saint-Esprit. Vous savez, le sceau qui se mettait sur la cire pour cacheter un courrier, par exemple. Là, hop, c'est mieux ce sceau-là que de parler de la vache qui ou du cheval qui est... c'est plus poétique. mais c'est un peu la même chose. Tu es mon fils, tu es ma fille. Est-ce que tu sais, ou est-ce que tu... C'est pas que tu sais. Est-ce que tu as intégré que tu es fils et fille de Dieu, qu'il t'a engendré? C'est indispensable. Et non seulement tu es mon fils et ma fille, mais en plus tu es bien aimé. Ça gâche rien, j'allais dire, au contraire. Dieu est en train d'insister en disant non seulement tu es mon fils, c'est-à-dire il y a une filiation, mais il y a une filiation d'amour. Et non seulement il y a une filiation d'amour, mais en plus, en toi, je trouve mon plaisir. C'est-à-dire que quand je te vois, dit le Seigneur, je me réjouis. Quand le Seigneur te voit, il a la banane. Vous pouvez imaginer Dieu en train de sourire? Non mais essayez. Dites pas non. Dites pas, j'ai jamais fait. Enfin, vous avez peut-être jamais fait, moi je suis un peu bizarre, mais des fois je ferme les yeux et je peux m'imaginer Dieu avec un large sourire et avec des yeux tellement compatissants que ça me transperce quelque part. Donc vous l'avez compris, il nous dit la même chose. C'est pas tu seras mon fils ou ma fille, c'est tu es. C'est pas tu deviendras si tu es sage, si tu obéis, si tu fais tout ce que je te demande. C'est pas ce qui est... C'est pas dans le devenir et c'est pas non plus conditionné. C'est point. Tu es mon fils, tu es ma fille, tu es bien aimé et je prends plaisir en toi. Point. Alors, on le sait, mais il faut que qu'on l'intègre, parce que si on n'arrive pas à l'intégrer, la suite est plus compliquée. Je disais des fois que quand je fermais les yeux et que je regardais ou que je m'imaginais Dieu, j'ai presque l'impression, peut-être pas vous, hein, mais c'est tout à fait personnel, mais quand je regarde Dieu me regarder, je me dis waouh, qu'est-ce qu'il est amoureux, il est tout chose, waouh. Il est presque fébrile d'amour. Waouh, qu'est-ce que je l'aime. Alors vous, j'en sais rien, moi. Chacun doit le savoir pour soi-même. Bernard, je suis toute chose en te regardant. Hein? Rappelez. Quand le Seigneur me disait, je l'aime bien ce petit gars, alors que je n'étais qu'un embryon. en quoi Jésus fait plaisir au Seigneur. En toi, j'ai trouvé mon plaisir. Là, en l'occurrence, juste parce que Jésus a accepté le baptême, alors il ne l'aime pas parce qu'il a accepté le baptême, mais Jésus, aimant le Père, va à l'encontre de ce que Jean le Baptiste veut lui dire, et il dit, non, je fais ce qui est juste vis-à-vis du Père et vis-à-vis de l'Esprit-Saint, et... Mais, j'allais dire, le problème, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure, on a l'impression qu'on peut faire plaisir à Dieu seulement en obéissant ou en faisant les choses qu'il nous demande de faire. Et je crois que, c'est une erreur. Bon, je vous disais dimanche dernier, Amasia, fit ce qui plaît au Seigneur, mais sans enthousiasme. Ouais. Sans grand enthousiasme. Alors on peut avoir une vie spirituelle, je le disais, parce qu'il le faut, parce que c'est bien de faire comme ça, c'est parce que c'est juste. C'est parce que l'Église, l'Assemblée, le pasteur demande à ce que ce soit comme ça. Mais, c'est pas comme ça que ça se passe. Si je vais plus loin, je dis, parfois les chrétiens font des choses, ont des pratiques religieuses, chrétienne, juste, mais en se disant, c'est pour te faire plaisir, bénis-moi en retour. Alors on n'ose pas le dire, parce qu'on n'ose pas se le dire, mais creuser pour voir parfois quelles sont la réalité. Ah oui, mais Dieu ne me bénit pas parce que j'ai pas encore mes 3 heures de prière aujourd'hui, ni mes 2 heures de lecture biblique. Il faut absolument que je jeûne 2 ou 3 fois par semaine parce que ça fait plaisir à Dieu et en retour il va me bénir. Ça marche pas. C'est la conception qui est fausse. Dieu ne nous aime pas parce que nous faisons des choses. Je le dis, il nous aime, point. Il nous aime parce qu'il nous a créés et il nous aime comme nous sommes. Après, la question de la prière, de la lecture biblique, du témoignage, du fait d'être disciple, c'est parce qu'on l'aime qu'on le fait. Mais pas parce qu'on s'oblige... parce qu'on trouve que c'est juste ou parce que on veut en retour sa bénédiction. Et c'est pour ça qu'il faut que l'on recadre parfois certaines choses. Son amour, l'amour de Dieu, pour moi, en ce qui me concerne personnellement, je suis attiré, j'ai noté, je suis attiré par lui, attiré vers lui et attiré pour lui. Par lui, vers lui, pour lui, afin que ma relation avec lui, ce soit un partage de plaisir. Qu'il ait plaisir à ce partage avec moi et que moi j'ai du plaisir à ce partage avec lui. Je vous disais là-bas, le dernier renseignement que j'avais sur le bureau de mon ordinateur des versets qui me parlent plus particulièrement, sur lesquels je fonde un peu ma... Enfin, je fonde... en tout cas qui m'aide. J'ai aussi une feuille avec les alliances que l'Église a faites avec le Seigneur. Parce que on oublie vite. On est des oublieux. Et je regarde et je dis, tiens, je souhaite ne pas oublier. Alors, il y a tout juste un an, on a fait ensemble, on s'est levé et on a proclamé une alliance ensemble. Vous vous souvenez? Si vous ne vous souvenez pas, je vais vous rafraîchir, si tu veux. Allez, tu peux passer encore. Voilà. Nous avions dit ensemble, nous avions déclaré ensemble, Seigneur Jésus, par amour pour toi, fais de nous une communauté de disciples amoureux de toi. Nous voulons que tu sois toujours le centre de notre vie. Fais de nous un peuple d'adorateurs, animé d'un esprit de louange, de prière, un peuple de témoins dans la ville et au-delà. Donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, qu'il en résulte de nombreuses conversions. Saint-Esprit, manifeste-toi avec puissance, que chacun exerce des dons spirituels pour la gloire du Seigneur. Aide-nous à mettre en œuvre la multiplication des disciples, pourvoie aux besoins de ministères et de responsables. Fais de nous des partenaires de ta compassion. Père, par amour pour toi, conduis-nous, inspire-nous, afin que tu te réjouisses de tes œuvres. Nous voulons ça, parce que la dernière phrase, et c'est pour ça que je vous le fais relire, hein, la dernière phrase est importante, en tout cas de mon point de vue, « Inspire-nous afin que tu te réjouisses de tes œuvres. » On n'a pas envie de faire pour faire, on veut faire pour que le Seigneur se réjouisse. Et qu'il se réjouisse de ses œuvres à lui, et non pas de nos œuvres à nous. Reprenons un petit peu. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. J'ai mis éprouvé parce que le terme grec est en réalité éprouvé. Il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Jésus n'a pas l'air d'avoir choisi. Il n'a pas dit, tiens, le Jourdain était un peu froid quand je me suis fait baptiser, je vais aller au désert où il fait un peu plus chaud. Il n'a pas choisi d'aller au désert, il n'a pas choisi forcément de jeûner, et il n'a pas du tout choisi d'être tenté ou éprouvé. Le moment du baptême était plutôt un moment chouette, avec la descente d'une forme corporelle, avec la voix qui était sympa et que tout le monde a pu entendre, mais là, il va être dans le désert pendant une quarantaine de jours et ça va être autre chose. C'est, comment dire, c'est moins marrant. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Jésus s'est laissé faire par l'Esprit Saint. Il a été malléable. Ok, Saint-Esprit, tu veux que j'aille dans le désert, tu m'emmènes vers l'épreuve. Ok. Il n'a pas freiné des pieds. Il a dit, ok, j'y vais. Parce que c'est ta volonté. Jésus n'a pas dit, je préfère la bénédiction, la joie, la sensation de paix. Ah, Ah Seigneur, je voudrais rester toujours dans la paix, dans la douceur, dans le repos de l'esprit. Ah, je suis tellement bien. Combien de fois nous cherchons l'onction bienfaisante et combien de fois, surtout, nous sommes frustrés lorsque nous ne la vivons pas. Jésus est conduit vers l'épreuve des 40 jours, mais ce ne sera pas la seule, ce ne sera pas la dernière. La dernière, c'est quand il était dans le jardin de Gethsémané qui dit au Père, « Si tu peux éloigner cette coupe de souffrance, ça m'arrangerait. » Et puis, ben non. Non, non, il est tellement stressé qu'il y a des gouttes de sueur avec des mélangées à du sang qui viennent parce que Jésus était stressé devant ce qu'il allait vivre à la croix. Jésus n'a pas recherché l'onction bienfaisante. Il n'a pas sans cesse dit aujourd'hui, Père, je veux 10 guérisons. Demain, je voudrais faire une multiplication des pains parce que je trouve que c'est fun et que les gens ont faim, donc on va leur donner. Après-demain, Seigneur, si tu pouvais t'arranger pour que je puisse vivre une résurrection, ce serait pas mal. Il n'est pas du tout dans ce truc-là, quoi. Mais nous, on l'est. Nous, on cherche la guérison. Nous, on cherche les miracles. Nous, on cherche la puissance extraordinaire de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la chercher. Mais Jésus est préoccupé par autre chose. Lui, il veut faire ce que Dieu lui demande de faire. Je veux faire juste ta volonté, Seigneur. Juste ça. Alors, il ne vous aura pas échappé que, on va pas en parler, mais dans la Bible, il y a plein de 40, et là, Jésus est 40 jours dans le désert, et il en ressort, on va dire ça comme ça, il en ressort vainqueur, alors que le peuple hébreu, qui était aussi dans le désert pendant 40 ans, il a suffi que, pendant quelques jours, Moïse soit dans la montagne, lui aussi, pour une quarantaine de jours, mais... Allez, il descend, ils avaient déjà fait un veau d'or, ils avaient déjà dit « c'est notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte », etc. Ils n'ont même pas tenu 40 jours sans Moïse. C'est de la folie, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont compris de la délivrance de Dieu? De leur esclavage? Ils n'ont pas tenu 40 jours. Jésus devait aller au désert. Si vous lisez, entre autres, pas seulement le Nouveau Testament, mais il y en a quand même un certain nombre, il y a des petits mots. Jésus qui dit, il faut que le Fils de l'homme, il faut qu'il fasse. Il fallait que Jésus passe par Samarie. Il fallait. C'est de l'impératif. Il fallait que Jésus soit dans le désert. Il le fallait. Il ne pouvait pas partir à côté de cela. Nous devons, et c'est la bonne nouvelle ce matin, nous devons tous rentrer d'une manière ou d'une autre dans l'épreuve. Je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle. Je dis que c'est impératif. Nous voulons tous sortir de l'épreuve parce que nous ne l'aimons pas et nous avons raison de ne pas l'aimer. Mais quoi qu'il en soit, nous passons tous par l'épreuve et le problème n'est pas l'épreuve, c'est la manière dont nous sortons de l'épreuve. Vous êtes dans l'épreuve, ben dites-vous que c'est normal. C'est pas drôle, c'est pas marrant, mais c'est normal. Cela dit, ne dites jamais que c'est Dieu qui vous tente. Alors, je laisse pas défiler les versets, hein, mais dans Jacques au chapitre 1er, dans la traduction NBS, que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve ou lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve ». Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal et lui-même ne met personne à l'épreuve. Par contre, Jean 10:10 dit « le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire, mais Jésus dit « moi je suis venu » afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » On peut tourner, vas-y, encore. Non, c'est dans l'autre sens, ouais. L'état dans lequel nous nous trouvons financièrement, physiquement, psychiquement, sentimentalement, et on peut en rajouter, a moins d'importance que notre adoration et notre amour pour le Père. Ouh. Je l'ai mis pour que ça puisse rentrer. Je vous disais, hein, vous m'avez permis de dire tout ce que j'avais envie de dire. Alors, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la tentation et de l'épreuve. Je dis juste qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à ce qu'on croit. L'état dans lequel nous nous trouvons financièrement, psychiquement, physiquement, sentimentalement, et on peut en rajouter, a moins d'importance. Je n'ai pas dit que ça n'avait pas d'importance. Mais ça a moins d'importance que notre adoration et notre amour pour le Père, parce que lorsque l'on adore le Père et qu'on l'aime, nous ne sommes plus centrés sur nos vies, sur notre nombril, mais sur lui. Et c'est lui qui nous donne de sortir de l'épreuve mieux que quand on y est rentré. Notre foi doit être éprouvée, et elle l'est. Et elle l'est plusieurs fois. C'est un peu comme la tempête. Vous savez, il y a des arbres qui tombent malheureusement pendant la tempête. Mais quand ça tombe, c'est souvent parce que les racines n'étaient pas assez solidement enfoncées. Mais quand il y a une tempête et quand il y a du vent, ça bouge l'arbre, mais ça bouge les racines et ça permet aux racines d'aller plus profond et plus largement de s'accrocher. L'épreuve devrait servir à nous approfondir en Dieu. On entre dans l'épreuve, je le disais tout à l'heure. Le tout est d'en sortir vainqueur, surtout vainqueur de tous nos pourquoi. Pourquoi Dieu permet ? Pourquoi Dieu n'agit pas ? Pourquoi il n'intervient pas assez vite ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il est sourd ? Alors, il y a tous nos pourquoi. Et puis, parfois, il y a notre bêtise. J'allais dire quelque chose de plus fort que nos bêtises. Je me rappelle, mais toujours comme si c'était hier, de cette sœur qui dit... j'étais jeune. Je lui dis, tiens, comme ça, d'une manière très innocente, tiens, on t'a pas vu au culte dimanche. Ah non! Tu te rends compte, mon pneu a crevé, Dieu m'a puni, je ne pouvais pas venir au culte. Mais quelle connerie, quoi. J'ai envie de dire, mais qu'elle a compris quoi, là? Je Je pense à quelqu'un d'autre qui dit, mais moi je ne veux plus qu'on prie pour ma guérison, parce que de toute façon il ne se passe rien. Donc arrêtez de prier pour que je guérisse, parce qu'il ne se passe rien. Mais on sent de la souffrance. Mais ce n'est pas juste, pour autant. Rien à voir, mais un jour, j'ai déjà partagé ici, mais au CHU, à l'hôpital de l'Arrêt, il y a une maison, une salle pour le recueillement, et avec un cahier où les gens écrivent leurs états d'âme. Voilà, merci Jésus, merci, etc. Et là cette dame, parce que c'était, elle écrivait, « Dieu ne m'aide toujours pas. Je le hais au plus profond de moi pour la misère qu'il m'inflige. Il ne faut compter que sur notre force intérieure et non sur ce Dieu maléfique. » Waouh ! C'est crash ! Ouh ! Condamne pas, hein ? Personne en souffrance qui ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas et n'intervient pas. Je vous cite ça. Juste pour qu'on ait chacun l'honnêteté, des fois, de réfléchir à qu'est-ce qu'on dit à Dieu quand il ne répond pas comme on veut. Quand il ne répond pas à nos prières comme on le souhaite, comme on l'exige, quelles sont nos pensées ? Je ne veux plus qu'on prie pour moi, de toute façon, ça ne sert à rien. C'est presque de dire... Sur ce coup-là, Dieu est incapable. Je voudrais qu'on puisse réfléchir. Moi, je m'arrête souvent. Je m'arrête pour savoir, mais pourquoi je crois ? En qui je crois ? Comment ça se passe ? Parce que je souhaite que ma vie soit basée sur des vérités et non pas des mensonges que je me dis des fois à moi-même. On se trompe soi-même. C'est une expression biblique aussi. Que pensons-nous de Dieu lorsque nous sommes éprouvés ? Je voudrais qu'on mette les versets, les derniers. Voilà. Vous savez, ils venaient de sortir de l'esclavage. Ils en avaient fait des briques, etc., les Hébreux en Égypte. Et là, dans le désert, ils sont en train de dire, « Ah, nos repas en Égypte, quel souvenir ! Le poisson était gratuit. Ah. » Les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Ah, ici, il n'y a rien de tout ça. On est en train de dépérir avec la manne que le Seigneur nous donne tous les jours. On veut de la viande. À un moment donné, le Seigneur a tellement dit, il me casse les pieds, je vais leur donner de la viande jusqu'à ce que ça leur sorte des trous de nez. Ouais, non mais regardez, hein, j'ai pas pris le truc, hein, mais tellement on est exigeant. Au point que Moïse, il en pouvait plus, quoi. Où pourrais-je trouver de la viande pour tous ces gens qui pleurent et qui exigent que je leur donne à manger ? Pourquoi les gens, pourquoi les chrétiens, pourquoi les disciples du Christ sont sans cesse à pleurer et à gémir sur leur sort ? Pourquoi tu pleures et tu gémis sans arrêt ? En disant, Seigneur, tu fais pas assez, tu fais pas comme ça, agis, interviens, ne me permets que je sois pas éprouvé, enfin, que sais-je, mais on n'est pas mieux, on n'arrête pas de pleurer, de gémir. Et Moïse en a ras-le-bol, il demande au Seigneur à ce que, prends-moi, parce que j'en peux plus, moi, de ce peuple. C'est pas ce que je dis, hein, je suis pas Moïse. Mais c'est sur l'exigence que nous avons et sur nos gémissements et sur nos... Mais même si on gémit pas, en fait, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse avoir là, comment dire, l'honnêteté de nous mettre face à un miroir et de dire qu'est-ce que tu penses vraiment de Dieu quand nous sommes dans l'épreuve et dans la difficulté. Et quand il ne répond pas à nos prières, en tout cas pas assez vite, à notre goût, qu'est-ce qu'on dit ? Je nous demande une espèce d'exigence, d'honnêteté sur notre manière de vivre avec le Seigneur. Et si on est honnête, on verra qu'on est un peu comme ça. Et que, étant comme ça, nous avons besoin de dire à l'Esprit-Saint, change et transforme-moi parce que moi, je veux faire tout mon plaisir pour Dieu. Je ne veux pas que le Seigneur soit le Seigneur qui entend sans arrêt. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander. Mais il faut arrêter de pleurer. J'allais dire de pleurnicher, d'exiger, alors que là, en tout cas, en l'occurrence, Dieu était en train de pourvoir aux besoins. C'est ce que Job a fait à un moment donné. À la fin, il dit, mais j'avais parlé de Dieu, mais ouais, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit et ma manière de te voir est différente. Je reviens... au début, juste pour dire que nous ne pouvons pas traverser l'épreuve d'une manière satisfaisante sans être sûrs de notre identité de fils et de fille bien-aimés, aimés de Dieu. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans l'épreuve que nous ne sommes pas aimés, que nous sommes délaissés, qu'il ne veut pas nous répondre. Ça n'a rien à voir. Nous devons savoir, connaître quelle est notre identité en Christ, en Dieu, afin de pouvoir aussi entrer dans l'épreuve et en sortir vainqueur. Le reste, ce sera pour la prochaine fois. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être honnêtes avec toi et avec nous-mêmes. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour cela. Et nous voulons juste prendre conscience, accepter que parfois nous ne sommes pas très honnêtes. Nous cachons les choses, nous avons des excuses, ou nous nous échafaudons des choses, mais la réalité est plus crue parfois que cela. Nous sommes parfois des gémisseurs, alors que là, même où nous gémissons, toi tu es là en train de dire, mais tu es mon fils, tu es ma fille, je t'aime. Je prends plaisir en toi et nous, on est enfermés dans notre épreuve et dans nos pleurs et dans nos chagrins et dans nos murmures. Jésus, aide-nous. Nous ne valons pas mieux qu'eux. Mais nous ne voulons pas rester dans cet état. Et nous voulons demander vraiment que l'Esprit-Saint vienne nous conduire et nous diriger pour que notre entendement, notre manière de concevoir soit autre. Aide-nous, Esprit-Saint. Lorsque nous entrons dans l'épreuve, fait que nous puissions toujours en sortir vainqueurs. Parce que c'est ton plan, c'est ton souhait, c'est ce que tu veux. Parce que en sortant vainqueurs, nous sommes plus forts. Amen.